Dans cette séquence, nous allons détailler comment les systèmes de ville s'organisent. Nous rappelons la définition des systèmes de ville qui sont des villes dont les évolutions ont été rendues interdépendantes par le très grand nombre des échanges qu'elles ont eus et qu'elles ont encore entre elles. Échanges, réseaux d'infrastructures, concurrence, complémentarité facilitent cette coévolution qui construisent des systèmes de ville. Toutes ces interactions, rassurez-vous, je ne vais pas les détailler chacune telles qu'elles sont figurées en trop petits caractères sur cette image. En revanche, il est bon de se souvenir que ce sont les interactions entre les acteurs urbains tout en bas qui construisent les propriétés émergentes de chaque ville et en font l'organisation, comme nous avons pu le voir, et que ce sont des interactions au niveau supérieur entre des villes qui construisent les systèmes de villes du fait de concurrence pour l'attraction de telle ou telle fonction ou de tel ou tel équipement, avec parfois même des interventions d'acteurs qui peuvent remonter du niveau le plus bas vers le niveau le plus élevé. En fait, nous avons défini ces systèmes de ville, grosso modo, approximativement, comme occupant des territoires dans lesquels on pouvait facilement connecter des villes de toute taille en une journée de voyage, avec des réseaux qui aujourd'hui sont à très grande vitesse, la vitesse ayant été multipliée par un facteur 40 depuis 2 siècles. Et même si les interactions sont moins fréquentes que celles qui se produisent à l'intérieur de chacune des villes, elles suffisent à générer, engendrer une structure très forte, de forte différenciation par la taille, de diversité par les fonctions et d'espacement régulier des villes qui forment le système. Bien entendu, le territoire de référence n'est pas toujours très précisément défini. Aujourd'hui, on peut, grosso modo, encore faire correspondre la notion de système de ville à celle du territoire des États, parce que les États continuent d'avoir des systèmes législatifs distincts, d'avoir des frontières qui, tout en étant poreuses, néanmoins limitent les interactions avec les voisins. Mais nous avons bien conscience qu'au sein de chacun de ces systèmes de villes, beaucoup, parmi les plus grandes notamment, et les capitales ou des villes très spécialisées, ont des relations dans des réseaux qui dépassent ces limites territoriales. Donc l'appellation de système est commode, mais pas entièrement adaptée à ce que nous essayons de décrire. Ce que nous essayons de décrire sont des ensembles de villes qui ont des différences de dimension considérables. Il y a peu d'objets dans l'univers qui gardent le même nom lorsqu'on passe d'ordre de grandeur 10 puissance 3, quelques milliers d'habitants, à 10 puissance 7, quelques dizaines de millions d'habitants. Voilà les variations énormes de taille des villes à l'intérieur d'un même système. Ces villes assurent ensemble la couverture, la desserte et le contrôle des territoires dans lesquels elles sont implantées. Et depuis assez longtemps, on a cherché à théoriser cette forme d'organisation. La théorie des lieux centraux est celle qui est le plus connue. Elle a été énoncée d'abord par Walter Kristaller en 1933 et complétée par l'Américain Alan Pratt, un autre géographe, et révisée comme théorie évolutive des systèmes de ville. Voilà le schéma que donnait Kristaller de l'organisation des lieux centraux dans ce qui était à l'époque considéré comme l'Allemagne du Sud, avec des nœuds principaux, Francfort, Nuremberg, Strasbourg, Stuttgart et Zurich et Munich, et puis, vous le voyez, des galaxies de niveaux de centre qui dessinent de plus petits cercles ou hexagones en dessous des grands triangles contrôlés, coordonnés par ces grandes villes. Voilà le schéma théorique qu'avait dessiné Kristaller dans le cas où ces centres desserviraient une plaine homogène du point de vue de la répartition des populations et des revenus. Et il donnait également des tableaux sur le nombre et la taille théorique que pouvaient atteindre ces centres, pourvu chacun de fonctions plus ou moins rares et à plus ou moins longue portée. En effet, la centralité urbaine est donc ce qui permet aux villes d'organiser autour d'elles un territoire en rendant des services à la population résidant dans ces territoires. Donc, c'est cette offre de biens et de services à une population qui dépasse celle de la ville elle-même qui définit anciennement, en tout cas, cette notion de centralité. Et Walter Kristaller voyait sa théorie comme une théorie du nombre, de l'espacement et de la taille des villes. Il a eu des précurseurs. Nous n'avons pas cité encore Léon Lalanne, qui a remis trois mémoires à l'Académie des sciences en France pour souligner les lois de l'équidistance des villes, de l'équidistance multiple, de l'équilatérie. Il situait les villes au sommet de triangles équilatéraux. Il les avait étudiées en essayant de comprendre comment on pouvait installer des réseaux de chemin de fer parmi les villes françaises. Mais nous avons également eu le géographe Élisée Reclus qui a parlé de l'espacement régulier des villes, du fait des vitesses de circulation, donc un espacement correspondant à 10 ou 10, 10 ou 12 km, quelques lieues au temps des voyages à cheval. Et puis Jean Reynaud, dans un article Ville de l'Encyclopédie Nouvelle, dès 1841, considérait que nous avions un système organisé des villes pour la couverture du territoire. Mais donc, on retient pour des expériences, avec cette théorie des lieux centraux, les noms de Walter Kristaller, d'Auguste Loesch, un autre économiste américain, allemand, d'origine allemande, mais ayant travaillé aux États-Unis, Brian Berry, un géographe américain, dont l'ouvrage sur la géographie des marchés et du commerce de détail a été assez tôt traduit en français. Que nous disent ces théoriciens de cette répartition des lieux centraux? Eh bien, c'est qu'elle correspond à des phénomènes de polarisation des flux de clients vers des services. Et nous en avons ici une image que l'INSEE retrouve lorsqu'on localise les équipements dans l'inventaire communal et qu'on rapporte dans ces oursins l'ensemble des communes qui se dirigent vers le lieu d'offre de ces services. Et vous le voyez, nous avons bien des zones d'influence à peu près circulaires autour de ces centres, de dimensions variables suivant le niveau de service offert par les centres, et donc une illustration de cette polarisation de l'espace par l'attraction des centres urbains. Nous avons un autre concept important qui est celui du seuil d'apparition des différents niveaux de service. Ici, dans le cas d'un service élémentaire comme la boulangerie, il se situerait pour la France, comme pour chacune de ces régions, ici Midi-Pyrénées, aux environs de 500 habitants, qui est le seuil nécessaire pour rentabiliser un équipement comme celui de la boulangerie dans les communes. On parle de seuil d'apparition parce qu'en dessous, par exemple, d'une centaine d'habitants, il est très rare que nous ayons des communes équipées d'une boulangerie. Et en revanche, au-dessus d'une population de l'ordre de 2000 habitants, toutes les communes vont être équipées. Ces concepts donc sont très précisément organisés ici en rouge dans une théorie qui fonctionne non seulement de manière statique, mais aussi de manière dynamique, dans la mesure où la différenciation entre des centres qui concentrent l'offre de services et des périphéries où se localise une demande qui les utilise engendre des phénomènes de polarisation, de convergence des flux vers des centres. Ceci procure des avantages d'agglomération du fait du regroupement de ces services. Donc une fonction de centralité qui se renforce par une amélioration de l'accessibilité au cours du temps et qui donc permet au centre de continuer à se développer. Nous avons évidemment une organisation hiérarchique de ces niveaux de centres en fonction de la portée des services ou de leur seuil d'apparition. Et comme les services de même niveau se regroupent dans les mêmes centres, nous avons ainsi une organisation hiérarchique des centres. En fait, c'est la règle que nous avons ici énoncée de recours au service le plus proche qui va nous donner l'organisation spatiale de ces centres, puisque nous allons avoir des zones d'influence emboîtées et, du fait de la concurrence entre les centres, un espacement à peu près régulier entre les villes qui offrent le même niveau de service. Alors, cette théorie des lieux centraux, aujourd'hui, doit être complétée parce qu'elle ne suffit plus à représenter l'organisation des systèmes de villes. En effet, nous devons y ajouter les villes qui ont des spécialisations industrielles, donc qui ne sont pas fondées sur la desserte de population dans leur fonction principale. Nous avons des villes touristiques qui organisent d'autres types de réseaux. Nous avons également une violation de la règle de recours au service le plus proche parce que, en particulier avec la motorisation, on ne va plus directement se procurer dans le centre qui est le plus proche l'ensemble des services. On fait des voyages avec de multiples buts. On profite de ce qu'on va au centre préfectoral ou au centre de la région pour effectuer d'autres achats de niveau qu'on effectuerait normalement dans des achats dans des centres de niveau inférieur. Nous avons une complexité de réseaux qui se sont mis en place, et puis il faut bien sûr dynamiser cette théorie. Nous y reviendrons. En effet, l'observation générale, c'est que ces centralités se sont renforcées dynamiquement par valorisation du capital économique de ces centres qui se sont donné les moyens d'améliorer leur accessibilité et de devenir attractifs pour d'autres activités plus dominantes dans les réseaux et pour proroger donc l'accumulation. Cette dynamique qui est latente dans les énoncés de Kristaller, on peut très bien l'introduire dans des modèles multi-agents de simulation et faire émerger différents niveaux de centres dans une organisation tout à fait cristallérienne, comme cela a été fait par Arnaud Banos et ses étudiants. N'oublions pas que les systèmes de ville sont aussi organisés sur des principes réticulaires qui ne sont plus seulement d'émergence de marchés locaux, de services aux populations locales. Nous avons de très longue date, comme ici ces villes de la route de la soie, qui jalonnent des itinéraires d'échanges à très longue portée, à très longue distance entre plusieurs continents et qui sont une autre source de forme d'organisation des systèmes de ville. Et on en retrouve également des germes aujourd'hui pour conclure avec ce schéma réalisé par Céline Rosenblatt, ayant identifié les liens financiers entre les villes du monde à partir des liens financiers entre les entreprises multinationales qui s'y localisent et qui y installent des filiales. Et voilà donc que nous retrouvons New York, Londres, Paris, au centre de ce réseau des 30 villes les plus centrales dans ce qui commence à devenir peut-être un système des villes à l'échelle mondiale.